Rappelez-vous, la dernière fois, nous avions commencé la série sur la réforme tous les derniers dimanches du mois. Et aujourd'hui, nous aurons la deuxième série avec l'explication de la rose de Luther. Nous avons parlé de la rose de Luther la dernière fois. Et aujourd'hui, on va expliquer un par un les 5 pétales que vous avez vus sur cette rose. Il y avait 5 pétales, et nous allons expliquer aujourd'hui le premier qui est le plus important, le sola scriptura et tota scriptura. Et pour cela, j'ai pris un texte dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, au nom de Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. Amen. Pour nous les protestants, l'écriture sainte est la seule, et j'ai mis ça en majuscule dans ma note, seule, sola, seule, est la seule source d'autorité. Je ne dis pas est la seule source, point. Mais la seule source d'autorité. Il y a plusieurs sources qu'on peut utiliser pour expliquer la parole de Dieu, mais la seule source d'autorité, c'est la Bible. Et on met un accent particulier sur ce sola, seul. Parce que, figurez-vous, il y a un autre bloc dans le christianisme même, mais pas ailleurs, qui avance qu'à part les saintes écritures, il y a aussi la tradition de l'Église. Et quand je parle de la tradition, ce n'est pas la manière de faire les choses, c'est le magistère, comme disent nos frères catholiques. Et le magistère, c'est l'enseignement de l'Église, qui ont aussi le même niveau d'autorité que la Bible. Même niveau d'autorité que la Bible. Et c'est ce que les réformateurs ont catégoriquement refusé. Les traditions d'Église peuvent être nécessaires, utiles, mais n'ont pas la même autorité que la Bible. Alors il faut expliquer un peu ce que c'est que la tradition. La tradition ici, c'est la tradition orale. Ça vient de la transmission orale. C'est l'interprétation proposée par l'Église. Et il faut bien le souligner, ce n'est qu'une proposition d'application, mais ce n'est pas la norme à suivre. Ce n'est qu'une proposition. Or, avant la réforme, ce qui s'est passé, la proposition de l'interprétation de l'Église était devenue le fondement de l'Église. Ce n'était plus les Saintes Écritures. Et cette problématique était déjà connue même au temps de Jésus. Car le pharisaïsme, les pharisiens avaient hérité ce qu'on appelle le réveil. Il y avait un grand réveil dans l'Ancien Testament au temps d'Esdras. Après la captivité babylonienne, quand ils sont revenus en Israël, à Jérusalem, alors là, c'était l'interprétation des lois qui aidait les gens à vivre dans une piété scripturaire, je dirais scripturaire. Mais le problème, c'est que les mises en application de la loi qui ont été faites par Esdras sont devenues un code de la loi à part entière et qui a pris le dessus. L'interprétation dépasse l'écriture et c'est là que ça ne va pas. Du coup, ce sont ces codes de loi morale qui ont remplacé la vraie loi de Moïse. Et je vais vous lire un verset dans Marc chapitre 7, verset 3, qui dit, au nom de Jésus, « En effet, les pharisiens et tous les autres juifs respectent les règles transmises par leurs ancêtres. Ils ne mangent pas avant d'être s'être purifiés. Ils respectent beaucoup d'autres règles traditionnelles, telles que la bonne manière de laver les coupes, les pots, les marmites de cuivre. Voilà le reproche que Jésus avait fait. Jésus qualifie cela de règle de bonne manière, mais ce n'est pas la loi de Dieu. Une piété populaire qui a été rejetée en bloc par le Christ. Je dis bien une piété populaire qui a été rejetée par le Christ. Et ces lois étaient devenues des fardeaux lourds à porter pour les gens. Et Jésus était vraiment sévère contre cette façon de penser. Il dit dans Matthieu chapitre 23, verset 4, au nom de Jésus, « Il attache de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les met sur leurs épaules des hommes, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. » Ce sont des fardeaux. Les Écritures saintes devraient être libérateurs et non oppressantes, comme les pharisiens voulaient les présenter aux gens de son époque. Et c'est aussi exactement ce qui s'est passé au temps de la Réforme. Les gens étaient accablés par beaucoup de traditions orales qui n'avaient rien à voir avec le message de l'Évangile. Vous allez peut-être me dire, mais c'était leur problème, pasteur, c'est plus le nôtre aujourd'hui. Et en quoi ça nous concerne? Oui, peut-être. Mais nous ne nous trompons pas en pensant cela, car ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est que de nos jours, les croyances populaires et la sagesse humaine prennent le dessus sur la parole écrite aujourd'hui. Et je trouve que ce qui est en train de se faire même est encore plus grave qu'au temps du Moyen Âge. Parce que la manipulation de la parole n'a jamais été arrivée à un niveau le plus élevé. Avant, ce qui s'est passé, on a profité de l'ignorance des gens au Moyen Âge. Et on trompait les gens avec des histoires de reliques, de légendes. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Tellement la science, la philosophie, les différentes pensées sont à la portée de tout le monde sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, chaque personne maintenant devient leur propre pape. Avant, il n'y avait qu'un seul pape qui était le problème de Luther. Maintenant, il y a beaucoup de papes, moi et toi, nous devenons des papes. C'est-à-dire, nous avons notre propre interprétation. Et ça, c'est encore plus dangereux qu'au temps du Moyen Âge. Nous sommes devenus des papes à donner notre propre interprétation de la Bible, puisque aujourd'hui, on véhicule à fond, au niveau de l'Église protestante, dans le monde entier, la ligne suivante, il y a plusieurs vérités de la Bible. Tout chemin mène à Rome. Et ça fait peur. Par conséquent, vous voyez des églises qui se créent dans des petits quartiers. Ah, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là, moi je vais créer ma petite communauté à moi à côté. Voilà. Ce sont des petits papes à gauche, à droite, qui ont décidé d'avoir leur propre interprétation. Par conséquent, on peut voir de diverses dérives aujourd'hui, comme le piétisme populaire, je dis bien populaire. La forme de piété que j'adopte moi, même moi, en tant que pasteur, est une expression de ma foi en Dieu. Mais je n'ai pas le droit de la dogmatiser pour les autres. Et par la suite, la normaliser comme une norme biblique à imposer aux gens. La piété est une expression de ma foi personnelle. Et elle ne doit pas être oppressante pour les autres. Et à ce moment-là, nous plaçons comme autorité nos habitudes philosophiques. Habitudes, nos habitudes sociologiques et même nos habitudes ecclésiastiques, nos propres expériences spirituelles qui ne sont pas du tout mauvaises en soi, Mais je reprends une citation du réformateur Luther qui disait « Dieu ne donne à personne son esprit ou la grâce, sinon par ou avec la parole externe préalable. C'est là notre sauvegarde contre les enthousiastes. Autrement dit, les esprits qui se flattent d'avoir l'esprit indépendamment de la parole et avant elle, et qui par suite jugent, interprètent et entendent l'écriture ou la parole orale selon leur propre gré. C'est là le danger. C'est moi qui juge et qui qualifie, telle est la norme à suivre. Et là, on tombe dans l'hérésie. C'est une citation de Luther, c'est pas moi qui le dis. Alors, la conséquence grave, il n'y aura plus de balises. Et on tombe dans ce qu'on appelle une interprétation personnelle, en tenant compte comme leitmotiv la liberté individuelle. J'interprète la Bible en fonction de ma liberté à moi. Et face à cela, qu'est-ce que nous allons faire alors? C'est là qu'entre en jeu la deuxième partie, le tota scriptura. Si on dit simplement sola scriptura, c'est pas suffisant. Mais il faut le baliser avec le tota scriptura, c'est-à-dire toutes les écritures sont inspirées de Dieu et utiles. C'est la clé de compréhension du sola scriptura. Oui, tout le monde a beau crier l'écriture seule. Et tous disent que voici ce que dit la Bible. Mais la norme que le réformateur a gardée pour interpréter la Bible est la suivante. L'écriture est sa propre interprète. Si vous voulez interpréter la Bible, laissez la Bible interpréter elle-même. Ce n'est pas à vous de l'interpréter. Et cela renforce bien le sola dans le sens que l'écriture est suffisante. Elle n'a pas besoin d'aide de notre part. Ne soyez pas l'avocat de l'écriture sainte. L'écriture est autosuffisante. Et il faut garder en tête qu'il y a une unité parfaite dans les textes bibliques. Je vais vous donner un exemple précis pour que ce ne soit pas quelque chose d'abstrait. Dimanche dernier, nous avons parlé d'un texte de Matthieu où Jésus avait parlé œil pour œil, dent pour dent. Et pour l'expliquer, si vous étiez là, nous n'avons rien ajouté de l'extérieur pour le comprendre. Il suffisait d'aller à la source de la phrase utilisée par Jésus. Et cette phrase, il l'a reprise dans la loi de Moïse, dans Exode chapitre 21. Et là, c'était très clair. En faisant la lecture, nous avons vu que ce n'était pas du tout le concept de la vengeance, mais le concept de la restauration de la justice. Et le texte s'explique tout seul, en nous révélant qu'au final, il ne parlait pas de vengeance, mais de justice. Voilà. Pour simplifier les choses, la Bible, pour moi, n'est pas un magasin où on vient pour faire son marché et choisir un vêtement que je veux, une chaussure que j'aimerais, selon mon poids, ma pointure. Ah, celle-là me convient. Non, ça, non, c'est pas mon goût. Non, celle-là, oui. Quand on fréquente la parole de Dieu, il ne faut pas avoir cette attitude-là. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas? La parole de Dieu est la norme, mais pas mon choix. Il faut la prendre dans toute sa totalité. Et alors la grande question qui se pose à nous, protestants d'aujourd'hui, qui brandissons très haut le slogan « Sola Scriptura », l'écriture seule, oui d'accord, mais il faut la prendre dans toute sa totalité et non pas simplement ce qu'on aimerait. Et vous-même, vous l'expérimentez chez vous, non? Qui parmi nous a déjà lu, par exemple, un texte dans le livre de Haggai, dans le livre de Nahum, dans le livre de Sophonie? On aime plutôt vers, voilà, les textes où il y a les belles promesses. Là, on se tarde là. On le souligne même, et parfois même, il y a des pages qui ont disparu tellement on veut leur dévorer. Mais les autres, moi, une fois, quand j'ai fait ma première année de séminaire en théologie, j'ai dit, mais à quoi ça sert l'arbre généalogique du Christ dans Matthieu, au tout début? Mais à la fin de ma formation, c'est là que j'ai compris qu'heureusement qu'il y a ça pour prouver que notre religion n'est pas une histoire qui a été créée, mais une histoire qui a ses racines. Pour vous dire qu'il faut prendre la parole de Dieu dans toute sa totalité. On ne peut pas les séparer. Et quand on parle de la parole de Dieu, il dit la parole de Dieu, mais pas les paroles de Dieu. On parle au singulier, la parole et non les paroles. Justement pour dire que c'est son ensemble qui forme la parole. Alors, devant la Bible, tout ou rien, pas simplement une partie. Et Ézéchiel, j'ai vu un texte dans Ézéchiel qui peut nous résumer cela. Il y a une référence qui l'explique bien, qui dit « Celui qui me parlait dit, « Toi, l'homme, mange ce rouleau qui t'est présenté, puis va parler aux Israélites. » J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Il ajouta, « Toi, l'homme, remplis ton ventre et nourris ton corps avec ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai donc, et dans ma bouche, il y eut un goût aussi doux que le miel. Ce qui est étonnant dans cette phrase, quand la parole a rempli le ventre, c'est là que le goût du miel arrive dans sa bouche. C'est pas le contraire. C'est pas que « Ah, c'est bon !» Et c'est là que j'avale tout. Avale tout d'abord. Et quand tu auras tout avalé, tu sentiras le goût du miel. C'est ça, tout, toute la parole, mais pas une partie. Et là, vous allez voir que la parole de Dieu vaut la peine d'être vécue. Amen.